France Inter, le 18-20.
Les deux derniers Français jugés en Irak pour appartenance à l'État islamique ont donc été condamnés à mort ce lundi matin, ce qui porte à 11 le nombre de Français condamnés à la peine capitale. Il y en a un autre, c'est un Tunisien condamné à la même peine. Et c'est pas fini peut-être, puisque 450 Français liés à l'État islamique sont toujours retenus en Syrie. Chez nous, il est clair que nous n'avons aucune intention de rapatrier ces Français. La ministre des Armées l'a dit d'ailleurs très tôt. Il y a eu cette fameuse phrase « Aucun état d'âme sur le sort des djihadistes français qui ont rejoint l'État islamique ». Lorsque la question des procès s'est posée, c'est évidemment plus récent, Jean-Yves Le Drian a parlé de procès équitable, rappelant une fois de plus qu'il n'a jamais été question non plus de juger ces hommes en France, on le sait aujourd'hui plutôt clairement. Il y a deux problèmes néanmoins qui se posent, parce que en France, notre boussole, c'est l'état de droit. Le premier, ce sont ces procès équitables, tels que décrits par le ministre, des procès qui sont très rapides, des avocats commis d'office pour la plupart, qui découvrent des dossiers, des débats qui semblent très loin d'être contradictoires, et on va y revenir. Deuxième problème, évidemment, c'est la peine de mort. Notre abolition ne souffre pas de dérogation, même quand il est question de terrorisme. Et comme le disent 44 avocats dans une tribune menée par William Bourdon, qui est notre invité ce soir, condamner à mort des ressortissants français, c'est permettre la mise en œuvre extraterritoriale de la peine de mort, fermer les guillemets. Alors il y a peut-être un moyen terme, est-ce qu'il est suffisant? C'est commuer la peine en prison à vie? Est-ce que nous avons l'entregent nécessaire pour le faire? Est-ce que c'est cela qu'il faut faire? Et puis une fois qu'on a dit tout cela, il y a aussi les questions qu'on entend monter. Et puisqu'elles sont là, eh bien, posons-les crûment s'il le faut. On ne va pas les plaindre, ces terroristes, ces gens ont renié la France. Personne ne les a forcés à rejoindre l'État islamique. Ils ont eux-mêmes tué des gens. Ils se sont réjouis des attaques en France. On ne va pas pleurer sur eux. L'état de droit, la justice hors de nos murs, le terrorisme, la peine de mort. Rien n'est simple autour de ces questions. Et au fond, heureusement.
Fabienne Sintès. Le téléphone sonne.
Catherine, c'est vous la première. Soyez la bienvenue et bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Catherine.
Alors, voilà, je viens d'écouter justement les considérations actuelles concernant les Français, entre guillemets, hein, qui ont intégré et combattu pour Daesh. Eh bien, moi, je pense que ces gens-là qui sont partis, d'abord, n'ont plus rien à voir avec nous. Ils ont commis des atrocités dans des pays ces atrocités, et ils doivent être jugés, ils doivent purger leur peine, quelle qu'elle soit, dans les pays où ils ont sévi.
Et même s'agissant de la peine de mort, donc Catherine, quand je vous entends.
Ah mais ce sont des criminels de guerre, ils sont allés pour combattre, ils sont allés pour tuer, et quand on fait la guerre et qu'on est criminel de guerre, il faut s'attendre à ce qu'effectivement on soit soi-même condamné à la peine de mort.
Merci beaucoup Catherine pour votre question, il y en a beaucoup hein, comme les vôtres et il y en aura d'autres, donc on y répondra au fur et à mesure. Merci pour cette entrée en matière en tout cas du téléphone sonne pour discuter ensemble jusqu'à 20h. William Bourdon est là, bonsoir Monsieur Bourdon.
Bonsoir.
Vous êtes avocat au barreau de Paris bien sûr, vous êtes à l'initiative de ce texte dont je parlais, signé par 44 avocats qui a été publié sur le site de France Info ce matin lundi.
Ouais.
Et bonsoir à vous Sophie Parmentier.
Bonsoir.
Vous suivez ces sujets de djihadistes pour nous au service police-justice de France Inter. Il y a beaucoup de choses William Bourdon dans ce que dit Catherine et notamment dans les termes qu'elle emploie d'ailleurs. Et elle n'est pas les seules à les employer comme ça. Par exemple, ce sont des criminels de guerre. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut dire s'agissant de ces hommes-là ou pas?
Alors oui et non, c'est des questions très compliquées ça. Mais dans tous les cas, l'irruption de ces nouvelles guerres asymétriques et l'irruption de ce terrorisme invisible, protéiforme, évidemment a rabattu les cartes.
Mmh.
A tellement rabattu les cartes, d'ailleurs qu'il faut se souvenir qu'après l'attentat du 2001, les conseillers de Bush, il faut avoir ça en tête, mm-hmm. Les conseillers de Bush avaient dit le droit international humanitaire, le droit international de la guerre, les conventions de Genève, on s'en fout complètement, on les déchire, ça n'existe plus, car il n'y a plus de légitimité à appliquer un quelconque droit, avec évidemment une vocation de protection, mm-hmm. Protection contre les outrances, protection contre la barbarie, protection contre les dérapages qui existent toujours dans le cadre d'un conflit. Donc ce premier édifice qui date de 1945, grand édifice qui s'appelle le droit international dans la guerre, a été foulé aux pieds par l'administration américaine avec un exemple retentissant qui s'appelle le camp de Guantanamo.
Mm-hmm.
Et donc à chaque fois qu'il y a eu des attentats à travers le monde, il y a toujours eu une espèce de houle, de vague, parfois conceptualisée par certains politiques, portée par une partie de l'opinion publique, c'est ce qu'on vient d'entendre dans votre bouche Catherine, c'est-à-dire au fond, face à ceux qui sont des ennemis absolus de l'humanité, déclarés comme tels, d'ailleurs ils le sont, et qui sont, pour certains d'entre eux, des dangers publics sur pattes, il n'y a aucune espèce de discussion possible, pas tous, mais certains oui, on doit faire fi des principes. C'est-à-dire que cette espèce d'idée que la démocratie peut s'accommoder du principe suivant lequel la fin justifie les moyens. Or, la démocratie, c'est l'envers de la fin justifie les moyens. Précisément, c'est-à-dire que toute la construction depuis 3 siècles de l'état de droit et la démocratie, c'est exactement cette idée qui est au cœur d'ailleurs de la Déclaration universelle du 10 décembre 1948, qui est au cœur des textes fondateurs de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire de ne pas indexer les moyens de répression, de jugement sur la barbarie. Et c'est bien le piège des terroristes, c'est bien le fossé dans lequel ils voudraient qu'on plonge, c'est-à-dire en abaissant notre propre drapeau, de disqualifier la démocratie, de disqualifier l'état de droit, et donc, in fine, d'objectiver et de favoriser leur propagande et leur recrutement.
Alors, je vais aller plus loin que la question de Catherine, parce qu'au fond, c'est ce que j'entends aussi en creux dans ce qu'elle nous dit. Oui, mais ces gens sont jugés en Irak par la justice irakienne, que nous reconnaissons, quelle qu'elle soit, même si effectivement elle est loin de ressembler à la nôtre, nous reconnaissons cette justice. Donc, lorsqu'ils sont jugés par la justice irakienne, ils doivent purger une peine irakienne. À quel moment nous avons le droit, nous, d'entrer dans ce débat-là, nous, droit français, nous, état de droit?
Alors, il y a deux éléments de réponse. Il y a un premier élément de réponse qui est lié à l'universalité d'un certain nombre de principes fondamentaux qui sont consacrés par un certain nombre de textes qui parfois sont signés pour mieux les mépriser et cracher dessus. Et il se trouve que la France s'est construite avec ce qu'on a appelé le destin manifeste depuis le siècle des Lumières, un destin manifeste aujourd'hui bien écorné, mais enfin quand même un destin manifeste, c'est-à-dire d'incarner à l'échelon de la communauté des nations un des pays pionniers d'une part historiquement et un des pays les plus légitimes à universaliser la protection des principes. Donc première idée, la France est peut-être mieux placée que d'autres pour universaliser l'abolition de la peine de mort, par exemple. Deuxième principe, qui est essentiel, la conséquence dramatique de cette politique des autorités françaises dans ce pays, qui a été de dire tout sauf leur retour. Tout sauf le retour. Y compris la mort sur les bombardements, y compris les exécutions extrajudiciaires. Tout sauf le retour. La conséquence dramatique d'avoir chauffé à blanc l'opinion publique et de leur avoir dit que c'était nécessairement des bombes sur pattes qui allaient traverser les frontières si on les faisait revenir. Je ne dis pas que c'était simple, je ne dis pas que c'était, en termes de politique pénale et pénitentiaire, c'est évidemment un défi important à relever. Ça a été ce qu'on a vu il y a quelques jours, c'est-à-dire en acceptant qu'il soit transféré vers l'Irak, de potentialiser le risque qu'il soit exécuté. Alors,
parce que nous savions, c'est nous, pour que les gens comprennent bien, ils étaient en Syrie, ils ont été transférés en Irak.
Ils ne seraient pas condamnés à mort si la France n'avait pas donné son feu vert à ce transfert. Donc la France portera une part de responsabilité. Les autorités françaises porteront une part de responsabilité si demain matin, on apprend que ces 11 Français ont été pendus dans la nuit dans la prison de Bagdad. On a fait encourir à ces jeunes hommes un risque assumé, et d'une certaine façon, on a trahi notre parole et notre engagement.
Sophie Parmentier, je me tourne vers vous. On sait, on connaît leur pédigré à ces personnes qui ont été condamnées à mort. Est-ce que nous aurions des choses? Est-ce qu'ils sont tous, au fond, susceptibles d'être jugés en France? Est-ce que nous avons de quoi les juger en France et les juger même à une peine longue? Est-ce qu'il y a de vraies charges qui pèsent contre eux ici, chez nous, en France?
Alors, comme tous les Français qui sont partis rejoindre l'État islamique, il y a ouverture d'enquête en France et il y a des juges antiterroristes, en effet, qui seraient en mesure d'interroger ces Français et de les juger. Et il faut rappeler qu'il y a plus de 250 Français qui sont rentrés en passant par la Turquie et qui ont été jugés sans que ça pose problème devant la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris, qui est une chambre spéciale. Alors, la peine maximale devant ce tribunal correctionnel, c'est 10 ans de prison, mais on peut aller aux assises spéciales jusqu'à 20 ans et plus, notamment pour ceux qui ont rejoint l'État islamique après 2015. Donc là, c'est carrément le cas de ces 12 Français, 11 Français, 1 d'origine tunisienne, qui viennent d'être condamnés par la justice irakienne. Et William Bourdon le rappelait, ce qui est très important pour comprendre l'histoire de ces Français, c'est qu'en effet, ils ont été transférés depuis la Syrie au mois de janvier jusqu'en Irak. Et ça, c'est une première, puisque jusqu'à présent, il y avait deux Françaises et un Français qui avaient été condamnés par la justice irakienne il y a un an, et ils avaient été arrêtés par les Irakiens en Irak. Là, pour la première fois, ces Français ont été transférés avec l'aval de la France en Irak, sachant que l'Irak peut condamner à mort.
Clémence, bonsoir.
Allô?
Clémence, on vous écoute, on vous entend, allez-y.
Oui, bonsoir, je m'appelle Delphine.
Ah, pardon.
Merci tout d'abord pour la qualité de votre émission.
Je
voulais juste dire que j'imagine que si ces Français n'avaient pas été extradés, ils auraient certainement été également condamnés à la peine de mort en Syrie. Et je suis tout à fait contre leur extradition en France. Ils sont partis pas pour jouer aux billes, ils ont commis les pires exactions et il ne manquerait plus qu'ils soient jugés en France. Je trouve complètement aberrant qu'on puisse même en discuter, à vrai dire.
Et pourquoi, Clémence?
Ben parce que, je vous dis, ils sont partis en tout état de cause pour commettre des choses tout à fait inimaginables et absolument épouvantables. Donc, voilà, ils méritent d'être jugés là où ils ont commis leur crime.
Merci beaucoup, Clémence, pour ces remarques. William Bourdon, là-dessus, et autre chose derrière, dans la formulation de la question, il y a quelque chose qui dit, c'est ce que je lis là, peu importe, ça avance la question de Clémence. Aucune raison pour qu'il bénéficie de la clémence de la justice française. Un éventuel rapatriement ou éviter la peine de mort, est-ce que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter? Ça veut dire clémence de la justice française?
Alors, il y a cette espèce de confusion sémantique qu'on entend dans un certain nombre de questions qui est, ça montre à quel degré d'inquiétude il faut être tous collectivement. C'est-à-dire que cette idée que le respect des principes, ça serait une forme de compassion naïve. Ça serait une forme de faiblesse de l'esprit. On n'entend pas d'état d'âme. Enfin, si avoir des mouvements de l'âme, c'est l'expression d'une volonté de défendre un certain nombre de principes fondamentaux, moi j'ai pas de problème à avoir des états d'âme. Donc, on voit qu'il y a des glissements sémantiques qui sont terribles. D'ailleurs, on entend aussi qu'ils ne sont plus français. Enfin, en quelque sorte, ils seraient déchus de leur nationalité française de facto.
La première auditrice,
Bon, donc, à force d'avoir dit, on comprend les questions de ces auditeurs, et la responsabilité des politiques est lourde. Elle n'est pas exclusive, mais elle est lourde. À force d'avoir dit de ces hommes et de ces femmes qu'ils étaient des ennemis absolus de la civilisation, on les a renvoyés finalement aux marges de l'humanité. Et en les renvoyant aux marges de l'humanité, évidemment que ça désinhibe totalement tous les discours totalement qui sont des discours où il n'y a plus l'ombre d'une pitié, l'ombre d'une compréhension humaine, et du coup une amnésie, une double amnésie, c'est-à-dire que une amnésie sur le fait que ils sont français et qu'il y a une compétence qui n'est pas exclusive, mais une compétence prioritaire de la France quand des Français, quelle que soit la gravité de leurs actes, commettent des crimes à l'étranger. Et la France a réclamé depuis des décades et des décades l'extradition de Français qui avaient commis l'innommable dans des pays du monde entier. Deuxième principe qui est absolument essentiel, le procès équitable. Monsieur Jean-Yves Le Drian dit ils ont bénéficié d'un procès équitable, parce que c'est pas simplement le risque de l'exécution. C'est une exécution, un procès expéditif, un procès comme on n'ose plus en voir, en imaginer dans un pays qui fait mine d'être démocratique. Moi, j'étais à Bagdad il y a un an. L'avocat n'a pas le droit au dossier. L'avocat ne voit pas son client. Le procès dure 30 minutes. Il y a quelques feuillets. La personne n'est quasiment pas interrogée. Elle ne connaît pas ses charges. Il n'y a pas véritablement un droit d'appel. C'est une justice d'abattage pour être pendu. Est-ce que on n'a pas une responsabilité, quelle que soit l'ignominie qui aurait été accomplie par certains de ces jeunes Français, et d'ailleurs peut-être pas tous, parce qu'il y a des degrés divers aussi de responsabilité. Est-ce qu'on n'a pas une obligation impérative d'éviter qu'il soit exécuté? La réponse est oui. Et je termine encore 20 secondes. Ce que les auditeurs n'entendent pas, ce qu'ils ne voient pas, c'est que si demain, les gens qui nous écoutent ont un cousin, une cousine ou un frère qui est pris avec 10 kilos de cocaïne ou d'héroïne en Indonésie.
Il y en a des questions comme ça.
Quelle va être la valeur du message de la France pour demander un moratoire à une exécution si la communauté internationale et tous ces pays qui sont parfois si peu regardants sur les droits de l'homme, quel va être notre crédit? Il va être anéanti, il va être réduit pour d'autres Français, pour lesquels, je le sais, Catherine et Delphine, celles qui ont posé les questions aujourd'hui, auraient très certainement beaucoup plus de pitié et de compassion que pour les terroristes français.
Il y a deux questions qui vont dans ce sens-là, une d'Elisabeth Amacon, une autre de Jean à Brive-la-Gaillarde, qui nous dit c'est quoi la différence entre un djihadiste exécuté par la justice irakienne et un djihadiste exécuté par... ça c'est une autre forme de question, pardon, j'y viendrai tout à l'heure. Est-ce qu'on se pose autant de questions pour les Français condamnés à mort ailleurs, par exemple en Indonésie? Est-ce que qu'on déploie aujourd'hui en Irak, on le déploie de la même manière, peut-être moins bruyamment, pour les Français en ce moment condamnés à mort en Indonésie ou pas?
Évidemment que non. Évidemment que il y a une intensité qui est pas du tout dans la même gamme de fréquence dans la mobilisation des autorités françaises pour éviter la pendaison de ces hommes. Mais vous savez quoi? S'ils sont pendus dans quelques jours, qu'est-ce qui va se passer? Ça va provoquer des houles d'indignation et de révolte au sein de l'opinion publique française. Non, les questions le montrent très bien. Et l'État français pourra dire, nous respectons la souveraineté de l'Irak, on a fait ce qu'on pouvait, et la baisse est dite, on passe à autre chose. Mais les effets à long terme, c'est ce qu'on essaie de dire dans cette tribune, le sens de cette tribune, ça n'a rien à voir avec une quelconque compassion ou commisération pour ces hommes. C'est juste de dire, prenons garde aux effets toxiques à moyen et long terme, au-delà de l'exécution qui serait terrible de ces jeunes Français, prenons garde aux effets toxiques à moyen et long terme pour le crédit de notre pays, pour le crédit de notre parole publique dans le monde.
Sophie Parmentier, il y a une question qui me turlupine un petit peu. Moi, on nous a décrit, effectivement, William Bourdon nous a décrit ce qui se passe pendant le procès, que vous avez pu voir, Monsieur Bourdon, évidemment, puisque vous étiez l'avocat de Mélina Boguédir notamment. Vous la connaissez bien aussi, cette femme. Moi, je voudrais savoir ce qui se passe avant, en fait, Sophie Parmentier, pour qu'il y ait un chef d'accusation. Est-ce qu'il y a une enquête avant? Est-ce qu'il y a une instruction? Elle vient de... Elle est faite par qui? Comment se passe cet avant-procès, en fait, en Irak?
Alors, Mélina Boguédir, moi, je l'ai rencontrée justement avec William Bourdon lors du procès qui a eu lieu il y a un an devant la Cour pénale centrale de Bagdad. Et elle avait été arrêtée, en ce qui la concerne, à la chute de Mossoul à l'été 2017. Et elle avait été interrogée, comme tous ceux qui ont été arrêtés par les forces irakiennes, par ce qu'on appelle les SWAT, qui sont en fait les forces irakiennes qui avaient été formées par les forces américaines, spécialisées dans l'antiterrorisme. Mmh. Et il y a eu plusieurs interrogatoires et plusieurs interrogatoires par des juges qui disent mener une instruction en Irak avant ce procès. Procès qui, en l'occurrence pour Mélina Boguédir, William Bourdon le rappelait, avait duré moins d'une heure et le verdict avait été rendu quelques minutes après ce procès, lors duquel elle n'avait quasiment pas eu la parole, lors duquel il y avait peu de preuves qu'on lui montrait. Elle ne comprenait pas forcément ce qu'on lui reprochait. En tout cas, elle se disait innocente. Ce que je veux dire, c'est que en fait, il y a des procès expéditifs au moment du procès. Par exemple, pour ces jeunes Français pour ceux qui rentrent en France et qui sont jugés par la justice française, les procès durent plusieurs jours. Là, c'est expéditif parce que ça dure en moyenne une heure. Par exemple, c'était le cas cette semaine pour les 12 Français condamnés à mort. Mais la justice irakienne, que j'ai pu interroger il y a un an quand je me suis rendue sur place, dit que cette justice est à leurs yeux équitable parce que justement, il y a ces juges d'instruction qui reçoivent les Français. Je voudrais insister sur un point, sur les 12 Français qui ont été condamnés là ces jours-ci. Il y en a un, aujourd'hui, par exemple, qui, lors de l'audience, en fait, selon notre envoyé spécial sur place, a dit que il n'avait jamais formulé d'aveu. Et en fait... Les choses, même si, en fait, s'il avait dit ça en France, eh bien, le procès aurait été suspendu, on l'aurait questionné. Là, il n'y a eu aucune question, et au bout de quelques minutes, il a été condamné à mort.
William Bourdon, cette question est pour vous, elle vient de Jean-Louis qui est à Zurich. Essayons de nous mettre à la place de ceux qui jugent. Que serions-nous si des pays étrangers se mêlaient de nous et nous disaient comment on doit exercer notre justice?
Mais heureusement que des pays étrangers se mêlent de nous. Heureusement qu'il y a des institutions internationales qui, de temps en temps, rappellent à la France la façon dont un certain nombre de principes dans ce pays sont parfois écornés. Je pense à la situation des détenus, où la France a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme. Je pense qu'il y a une confusion qui est faite. La France ici n'est pas... moi, on ne demande pas à la France de faire la leçon en Irak. Il ne s'agit pas de ça, c'est pas du tout le sens de cette tribune. Il s'agit simplement de dire que aux autorités françaises, vous avez potentialisé un risque énorme. Si ce risque advenait a été réalisé, vous porterez une lourde responsabilité dans l'histoire, et ça serait une tâche, à mon avis, indélébile sur le mandat d'Emmanuel Macron, dont le monde entier se souviendra, parce que faut bien avoir en tête, il faut dire les choses clairement, cette situation est sans précédent, ça serait la première fois depuis des décennies et décennies, il faudrait d'ailleurs faire une recherche archéologique, où la France aurait pris le risque de faire condamner, éventuellement, malheureusement, un nombre significatif de ces ressortissants. Non, quand la France s'adresse à un autre pays, s'est adressé au Mexique, parce qu'il y avait une jeune Française qui serait tombée dans un traquenard absolument abominable. Bon, c'est devenu une héroïne, elle est arrivée, tapis rouge, l'Élysée par Nicolas Sarkozy. Il faut se souvenir de la mobilisation de la France à ce moment-là. Bon, elle était sans doute innocente, vraisemblablement, je n'en sais rien. Et d'ailleurs, à la limite, peu importe. Mais une mobilisation presque romanesque, extraordinaire pour cette femme, où la France a rappelé au Mexique son exigence devoir respecter le principe du procès équitable. Et ça a marché, elle a été transférée vers la France. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que ce que les auditeurs et les auditrices doivent bien avoir en tête, c'est ce qui se joue là, dans la prise de risque, c'est un cynisme d'État. Et un cynisme d'État qui s'est pas du tout manifesté simplement ces derniers jours, mais qui s'est manifesté depuis maintenant l'irruption de l'état d'urgence en France il y a plus de 3 ans. C'est-à-dire de faire croire aux Français dans une espèce de propagande, à mon avis, inacceptable, de faire croire aux Français que quelques coups de tanif à des principes et des valeurs pourraient apporter à la France plus de sécurité et plus de tranquillité. Or, toute l'histoire enseigne que c'est évidemment une attitude court-termiste, et toute l'histoire enseigne évidemment d'une façon constante que quand on promet plus de sécurité et tranquillité contre un peu moins de liberté, un peu moins de principe, en général, eh bien, c'est ni l'un ni l'autre dont bénéficient les citoyens.
Et les peurs dont vous parlez qui justifient ce genre de questionnement, voilà une autre. Supposons qu'ils rentrent en France pour juger leur peine, où pourraient-ils être détenus? N'y aurait-il pas un risque qu'ils deviennent des héros pour leurs co-détenus? Ce risque existe peut-être aussi dans la prison irakienne où ils sont, si ça devient une sorte d'Abu Ghraib après tout, ou pas? Est-ce que ça s'est pris en considération?
Il y a mille effets comme ça, telluriques, rationnels, irrationnels, sur lesquels il est difficile d'anticiper. Si ces jeunes Français sont pendus demain, évidemment qu'il y a une instrumentalisation qui sera faite de ces pendaisons par un certain nombre de groupes, c'est certain. Et évidemment aussi, juste un point important, la France est attaquée en ce moment, dans un certain nombre d'institutions internationales, au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. On l'a vu avec les excès dans les violences policières pendant toutes les manifestations depuis 8 à 10 mois. Moi qui me promène à travers le monde, en Afrique, je vois que l'image de notre pays est écorné, et que beaucoup de grands intellectuels, des membres de la société civile, des politiques, des journalistes, ne se reconnaissent plus dans l'image de la France, terreau des droits de l'homme, protecteur des principes, et ça, je le dis et je le répète, personne aujourd'hui n'est en mesure d'évaluer les coûts directs et indirects terribles pour notre pays dans les prochaines années.
Mais Monsieur Bourdon, juste une chose, Sophie Parmentier, j'ai vu que vous vouliez intervenir. Notre marge de manœuvre, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que nous pouvons faire si nous ne voulons pas, si la France dit officiellement nous ne voulons pas que ces gens soient exécutés? Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre?
Moi, je pense que la marge de manœuvre, elle est faible. D'abord, il y a une hypothèse, c'est qu'il y a eu un deal avec les autorités irakiennes. Et qu'il y a eu des contreparties diverses en disant vous les gardez à perpétuité avec des contreparties qui sont liées à des intérêts économiques, géopolitiques.
Donc il peut déjà être négocié qu'ils ne seront pas tués.
Bon, il est possible qu'il y ait eu un deal. Il est possible qu'il y ait une promesse faite par les autorités irakiennes de faire son meilleur pour qu'ils ne soient pas pendus. Mais en disant finalement le dernier mot c'est les juges. Parce que s'il y a un deal, ça veut dire que la France crache sur la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que la France demande aux politiques irakiens de tenir mais rennes très très serrées ses juges. Donc ce deal serait à la fois, c'est un peu paradoxal, rassurant sur l'issue de la vie de ces jeunes Français, mais détestable sur la conception qu'on verrait de la séparation des pouvoirs. Donc il y a peut-être un deal, il y a peut-être une promesse de faire son meilleur effort, mais in fine, voilà, c'est une prise de risque. Cette prise de risque, elle est là, sur la table. Il y a d'autres condamnations qui vont tomber. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le cerveau des politiques irakiens par rapport aux ingérences, parce que c'est comme ça qu'ils le perçoivent aussi, de la France? Ça, nul aujourd'hui ne peut parier de ce qui va arriver de la vie de ces jeunes gens.
Sophie, non, je voulais dire plusieurs choses. Sur la question de l'auditrice qui demandait où il pourrait être détenu s'il rentrait en France, je voudrais rappeler encore une fois qu'il y a des dizaines de jeunes hommes et de jeunes femmes qui étaient partis rejoindre le groupe État islamique, qui sont rentrés en France, qui ont été jugés, condamnés et qui sont actuellement incarcérés, et que ces jours-ci, sans que ça fasse la une des journaux, il y a des présumés djihadistes qui continuent à rentrer en passant par la Turquie, parce que ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que cette affaire est purement diplomatique. C'est qu'en 2014, Bernard Cazeneuve, alors ministre de l'Intérieur, avait signé un accord avec la Turquie, donc tous ceux qui étaient partis en Syrie, rejoindre Daesh, sont revenus en passant par la Turquie, tout cela revient en France automatiquement. Ceux
cueillis à la frontière, on se souvient de ces moments-là.
Exactement, et ça continue en fait. Alors on en parle peu, mais je peux vous dire que ces dernières semaines, je sais qu'il y a eu plusieurs arrivées arrivés d'hommes, de femmes et d'enfants français par petite grappe en fait en provenance de la Turquie. Pour tous ceux qui ont été, qui se sont rendus aux forces kurdes, tous ceux qui sont chez les Kurdes, vous savez que les Kurdes en fait ils n'ont pas d'État en fait contrairement à ce qu'ils voudraient. Et donc eux, ils n'ont fait aucun procès. Et l'auditrice qui disait mais pourquoi ils sont pas jugés chez les Kurdes? Parce qu'il n'y a pas eu de procès. Et donc ceux qui avaient été arrêtés en Irak, il y avait quelques cas dont Mélina Bouguédir qui a défendu William Bourdon et Jamila Boutoutaou, une autre française. Elles avaient été arrêtées en Irak, elles ont été condamnées il y a un an. Et là, le cas spécifique de ces 12 Français, c'est qu'ils étaient chez les Kurdes. Alors, ils s'étaient rendus pour certains pas du tout après la chute de Baghouz récemment en décembre, mais pour certains depuis plus d'un an. Et il y a eu ce transfert au mois de janvier. Deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il y a eu 500 condamnations à mort en Irak.
J'allais vous y emmener. En 2018. Exécution. En 2018. Exactement. Et pour l'instant, aucune exécution.
Concernant les Occidentaux, concernant les étrangers, parce qu'il y a beaucoup plus d'Irakiens qui ont été condamnés à mort, et eux, en fait, ils ont été pendus. Donc, c'est pas le cas pour l'instant pour les Occidentaux.
Jusqu'à présent, les Occidentaux, non. William Bourdon, cette question qui vient de Guillaume et qui nous dit, ne serait-il pas possible d'envoyer des avocats français en Irak pour défendre les djihadistes? Il y en a un d'avocat français, si je ne m'abuse, qui a pu rentrer dans le dossier de ces 11 dont on parle aujourd'hui. Sinon, serait-il possible d'envoyer des contingents d'avocats français?
Écoutez, déjà, l'avocat irakien n'a pas accès à sa cliente, ne peut pas la visiter en prison. Donc, pourquoi voulez-vous qu'un avocat français? Il n'y a pas de convention bilatérale. Non, c'est tout à fait possible. Il y a une présence symbolique, publique, c'est ce qu'on a fait. Pas avec d'ailleurs un succès extraordinaire, hein, parce qu'elle avait été acquittée de premier coup. Il a suffi qu'on vienne à Bagdad pour qu'elle prenne 20 ans. On peut pas dire que c'était très formidable, notre déplacement. Mais enfin, dans l'intervalle, il y a eu les déclarations de Jean-Yves Le Drian qui s'était comporté à l'époque comme, on l'avait dit, le procureur ou le quatrième juge du tribunal. Mais je voudrais rappeler juste une minute quelque chose.
Allez-y.
Il y a une idée qui empoisonne les cerveaux. Cette idée, et qui fonctionne depuis longtemps, c'est que ces êtres seraient nécessairement des êtres irrécupérables. Je sais que je n'ai pas provoqué des soulèvements de joie dans ce que je vais dire. Et sans doute peut-être demain matin des mails de haine ou de menaces comme on a reçu tout à l'heure sur le mail du cabinet. Ce sont des enfants de la France. Ce sont des fils de la France. Nous portons aussi une responsabilité.
Je les entends tomber les mails en effet, William Bourdon.
Moi je les entends tomber. Mais nous avons aussi une responsabilité. Il y a un pays, il y a un rapport, juste 30 secondes. Le Danemark, il y a eu beaucoup moins de jeunes Danois qui sont partis. Mais il y a eu des Danois et des Danoises qui sont partis, qui ont été des combattants. Certains ont été véritablement dans les premières lignes des djihadistes de Daesh. Il y a un programme où on a mis le paquet à Copenhague ces 4 dernières années. Pour organiser avec toutes des compétences interdisciplinaires, d'optimiser les possibilités de réinsertion de ces jeunes gens et ces jeunes femmes. Il y a un taux de réinsertion qui est le taux le plus élevé d'Europe. En disant ça, je ne dis pas que ça soit facile, je ne dis pas que ça soit commode, ça reste un fardeau extrêmement compliqué, ça reste un casse-tête d'une complexité inouïe. Mais tout ça participe d'une espèce de déshumanisation globale dans le traitement de ces Français, de ces Françaises, et je le rappelle, des enfants. Parce que il y a un tabou qui est en train de sauter sur la peine de mort, il y en a un autre qui a sauté depuis 3 semaines, c'est le fait que normalement la France avait une obligation de porter secours à ses enfants, surtout des enfants en très bas âge, s'ils étaient en danger de mort. Eh bien, il y a 2 tabous, manifestement, qui coup sur coup ont sauté ces derniers mois en France.
Allez, Lionel est au standard, au
01 45 24 7000.
Oui. Bonsoir Lionel.
Oui, bonsoir. Merci de prendre ma question. Je ne partage pas du tout l'avis de l'avocat. Lui, c'est son métier, bien sûr, de défendre qui lui demande de le défendre. Mais il me semble que ces terroristes cruels, combattants, qui ont quitté la France, qui ont craché sur la France, qui ont renié la France, c'est-à-dire qu'ils ont souhaité ne plus être français. Et ils l'ont bien dit, on l'a bien vu à la télé. Et ils ont déchiré leur passeport devant les caméras. Et pourquoi nous, Français, prendrions-nous ces gens-là? On va les récupérer. Ils seront peut-être certainement condamnés à perpétuité. Donc ils vont rester 30 ans en prison. Entre-temps, ils vont demander à pouvoir se marier, à prospérer encore et à faire prospérer leurs idées assez cruelles. Et pourquoi l'État français doit-il prendre en charge tout ça alors que nous-mêmes, nous sommes déjà, nous avons des prisons qui sont saturées? Et voilà, donc je ne comprends pas que les avocats s'érigent toujours pareil, c'est la la masse pensante éthique qui donne des leçons à tout le monde, alors que ces gens-là ont renié la France, ils ont considéré qu'ils ne sont plus français.
Merci.
Et donc ils doivent bénéficier, bien évidemment, des jugements. Et nous, Français, on n'a pas à s'immiscer à ça.
Merci voilà. Lionel, on a entendu ce que vous nous disiez et William Bourdon va vous répondre.
Oui, il y avait des détenus aux États-Unis qui, après 30 ou 40 ans dans les couloirs de la mort, réclamaient leur exécution. Et on les a exécutés parfois, et ça a contribué à remettre au pinacle la peine de mort pendant des années aux États-Unis. Donc, si quelqu'un se comporte comme un barbare et vous crache à la gueule quand vous voulez lui porter secours, et si vous lui portez pas secours, évidemment que vous faites litière d'un principe fondamental qui est pas simplement un principe d'humanité, mais qui est un principe suivant lequel toute personne a droit à un procès équitable et que le droit à la vie est un droit absolument fondamental qu'il faut essayer avec obstination de protéger, de faire protéger obstinément. Moi, notre tâche est pas du tout facile aujourd'hui. Je le vois bien avec la question des auditeurs. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait des bouquets de fleurs qui me tombent dessus quand je suis arrivé il y a 40 minutes dans votre studio. Mais si, c'est pas simplement la responsabilité de l'avocat. Ça peut être celle du journaliste, ça peut être celle du politique même. Heureusement qu'il y a des politiques qui épousent aussi ma voix, même si malheureusement on les entend pas assez. Plus les politiques vont accepter d'affaisser, abavorir sournoisement, comme ils le font aujourd'hui, un certain nombre de principes et de valeurs parce qu'ils seront dans l'obsession de leur propre survie politique. Et l'obsession de la survie politique, c'est de coller à l'opinion publique, c'est-à-dire de coller à vos inquiétudes, à votre peur. Je m'adresse ici aux auditeurs et aux auditrices. Plus évidemment, ils vont gagner des galons, ils vont pouvoir espérer une survie politique peut-être un peu plus longue, et plus en même temps, sera difficile à rattraper tous les coups de canif, tous les coups de boudoir qu'on aura donné à nos grands principes et à notre République.
Anne, ça fait longtemps que vous attendez. Vous allez peut-être changer un peu le ton de la conversation. D'ailleurs, on vous écoute. Anne, allez-y.
Merci de prendre mon appel. Eh bien, je suis absolument d'accord avec tout ce que le monsieur vient de dire, parce que je suis absolument contre la peine de mort. La vraie justice doit se mettre toujours au-dessus de toute barbarie. Et je suis pour le rapatriement de ces personnes avec un procès équitable en France. Il faut absolument que les gens prennent conscience de qu'est-ce que c'est qu'une vraie justice. C'est toujours de se mettre au-dessus de tous ces de la vraie barbarie. Voilà mon appel.
Merci beaucoup Anne et merci beaucoup d'avoir patienté. C'est important aussi d'entendre d'autres voix dans ce téléphone sonne. Sophie Parmentier qui voulait intervenir.
Oui, je voulais juste ajouter qu'il y a une association des victimes du terrorisme qui réclame le retour, le rapatriement de ces Français qui viennent d'être condamnés à mort en Syrie et qui souligne, alors c'est Georges Saline qui dit ça, sa fille a été tuée au Bataclan, qui souligne que c'est aussi une question de sécurité justement dans les prisons irakiennes et il faut se souvenir, vous en parliez en début d'émission, que dans la prison d'Abu Ghraib, en 2003, c'est là qu'il y avait Abou Bakr al-Baghdadi qui a créé le califat de Daesh. Donc en fait, c'est pas en les laissant dans les prisons irakiennes qu'on sauve la sécurité de la France.
Et en même temps, c'est important de poser cette question-là.
Absolument, ce que dit tout à fait exact. Ça rejoint mon observation sur le calcul court-termiste. Et puis, puisqu'on parle des victimes, puisque les éditeurs évoquent à la fois leur peur, évidemment, qu'il y a un nouvel attentat, on le comprend, mais c'est vrai qu'on leur a intoxiqué le cerveau avec beaucoup de force et de répétition. Moi, j'entends un certain nombre d'associations de victimes. Et aussi d'un certain nombre de responsables des services de grands policiers qui disent « Cette politique est une erreur magistrale. » D'abord, on va se priver, et on va priver les services de renseignement français d'un débriefing qui peut être décisif dans la lutte contre le terrorisme demain. C'est-à-dire de mieux comprendre toutes ces filières, ces recrutements, ces différentes allégeances. Enfin voilà, il y a une espèce de cartographie là, essentielle pour, au contraire, optimiser notre propre bouclier contre la menace terroriste. Et enfin, qu'est-ce qu'on va dire à des victimes le jour où ces Français ont été pendus ou condamnés ? Le box sera vide sur un certain nombre de dossiers. Ça veut dire qu'on accepte aussi de leur dire à la figure, on va vous frustrer aussi de l'œuvre de justice que vous attendez, dont vous avez besoin. Ce sont aussi tous ces effets paradoxaux à moyen et long terme, dont les politiques ne veulent pas entendre, parce qu'encore une fois, ils pensent qu'ils vont améliorer leur situation à court terme en adoptant ces rodomontades et cette politique martiale, au risque encore une fois de souiller un peu durement notre image et peut-être pour des années.
Patricia, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue, Patricia. Vous êtes la dernière.
Oui. Ah, super. Alors, je vais me dépêcher. Bon, ma question est la suivante. Est-ce que sur toutes ces personnes vous nous souhaitez défendre et qui sont condamnées donc à mort, parce que certaines d'entre elles ont demandé à être rapatriées en France. Et si ce n'est pas le cas, enfin pour être jugées, excusez-moi, j'ai couru.
Non, je vous en prie.
Merci. Et si c'est le cas, si personne n'a rien demandé, au nom de quoi a-t-on le droit de, je sais pas, de faire de l'ingérence déjà dans un pays irakien, et puis disons que on doit tous assumer aussi nos responsabilités.
Répondons clairement à ça. Merci beaucoup, Patricia William-Bourdon.
Est-ce que Alors, il y en a qui ont demandé à être jugé. Moi, c'est des fois des mères avec les enfants qui demandent à être jugées, qui savent qu'elles vont être judiciarisées, qui savent que pour certaines d'entre elles, comme l'a rappelé Sophie Parmentier, elles peuvent être condamnées à des peines éventuellement lourdes et significatives. J'observe d'ailleurs qu'il y a un effet d'amalgame dans les questions qui est en écho avec aussi les paroles de certains politiques. Vous savez, je refais un détour à propos des enfants. Il faut quand même ici se souvenir que les auditeurs se souviennent de ce qu'a dit le défenseur des droits et la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Les enfants ne naissent pas terroristes, ils ne sont pas responsables de leurs parents. Et c'est quand même des propos qu'on a entendus chez un certain nombre de politiques et chez un certain nombre de prises de parole publiques. Il y a des mères et des pères qui veulent rentrer, qui savent qu'ils vont être condamnés lourdement. Il y en a certains dont je sais qu'ils seront dans un repentir actif et qui demanderont qu'une chose, c'est d'être accompagnés pour éventuellement demain retrouver notre communauté. En disant ça, je me berce pas d'illusions. Je sais que tout ça va être compliqué, long et difficile. Et puis quand même rappeler que la France est dans l'ensemble des pays européens, notamment fondateur de l'Union européenne, un pays qui se distingue, puisque c'est le pays qui adopte la politique la plus intransigeante et la plus dure vis-à-vis de ses ressortissants, à la différence d'autres pays qui s'organisent pour leur transfert, s'organisent pour le rapatriement, sans que l'opinion publique ait le sentiment que tout d'un coup ça va créer des brasiers dans les rues, et sans que l'opinion publique ait le sentiment que ça va provoquer une hausse vertigineuse de la menace terroriste.
Sophie, très vite, je voudrais juste dire que parmi ces 12 Français qui viennent d'être condamnés à mort en Irak, et bien plusieurs ont fait appel de la décision, qu'il y a maintenant, dans les 4 semaines, un conseil de juges irakiens qui va décider s'il y aura pour eux un nouveau procès ou pas. Et vous parliez de relations diplomatiques. Oui. Eh bien, sachez que le président irakien peut gracier ces Français condamnés à mort.
Voilà, ça donnera peut-être l'occasion d'y revenir et d'en reparler. On savait que les questions seraient compliquées, mais c'est ça que ça sert aussi. Le téléphone sonne. Merci beaucoup. Donc, merci à tous pour votre participation. Merci de vos nombreux appels et portez-vous bien.